Chapitre 64. Une voiture de police sale est garée sur le parking verglacé devant Miller's Garden, moteur allumé. Les deux agents mangent chacun une clémentine. Ils ont rassemblé les épluchures dans un sac en papier posé entre eux sur le tableau de bord. Derrière le muret de pierre soigneusement entretenu se dressent de grands tuyas dont la partie tournée vers l'eau est couverte de neige. Le cube de verre sur le toit du bâtiment principal du musée reflète la lumière du soleil comme une gigantesque lentille de phare. Comme Petrus Litt a des problèmes de hanche, il laisse son nouveau collègue conduire. Tout le monde à la police de Lidingö appelle Petrus Pingu, car il a l'habitude d'imiter le son d'une trompette pour faire taire les discussions devenues incontrôlables. Il doit prendre sa retraite après le nouvel an et attend avec impatience d'avoir du temps pour jouer au golf avec son grand frère. Ses collègues lui disent en plaisantant à demi qu'il doit être particulièrement prudent car, dans les films américains, une retraite autant attendue augmente le risque de mourir prématurément. Le nouveau collègue de Petrus, Danny Imani Ingmarsson, est encore aspirant et fait lui aussi partie d'un groupe à risque dans une version cinématographique de leur travail. Il est jeune, regorge d'idées, admire ses collègues plus âgés et désire être pleinement accepté. Il est sportif, avec des cheveux courts, des yeux bruns doux et des sourcils légèrement inclinés qui lui donnent un air mélancolique. Son père, Thomas, est vendeur de voitures chez Bilia Aganora et sa mère a fui l'Iran lors de la Révolution, puis s'est formée en Suède pour ouvrir son propre cabinet de dentiste. Petrus n'a utilisé qu'une seule fois son arme de service. Ça remonte à 10 ans. Et même s'il n'a infligé aucune blessure grave, il y pense encore presque tous les jours. Comme un Don Quichotte, le jeune homme avait une casserole sur la tête et se promenait avec un sabre japonais dans le supermarché Coop's Keppet. Il était manifestement psychotique. Après avoir fondu une pastèque en deux, il est devenu menaçant et refusait de poser son épée au sol. Les négociations se sont achevées lorsque Petrus Litt a tiré dans la cuisse de l'homme. Il n'a jamais oublié son visage. Ses yeux se sont remplis de larmes et avant de s'effondrer en criant de douleur, il a avancé sa lèvre inférieure comme un petit enfant. Petrus tourne le regard vers l'écran tactile de la station. C'est inexplicable, mais c'est comme si dans son corps, il sentait toujours à l'avance l'arrivée d'un appel d'urgence, comme s'il se préparait durant les quelques secondes où l'opérateur du centre de communication reçoit l'appel, évalue la situation et décide de le transmettre. Petrus est paré quand l'appel du central arrive sur la radio. Il répond et comprend avant même que le mot « prio 1 » soit prononcé que la situation est grave. La voix de l'opératrice est teintée d'une pointe d'angoisse lorsqu'elle raconte la tentative de meurtre en cours dans une villa de Jagdstigen. Les informations s'affichent en même temps sur l'écran tactile. Danny met le gyrophare et les sirènes, appuie sur l'accélérateur pour sortir du parking, tourne à droite, monte sur le trottoir et racle l'aile de la voiture contre un mur. Putain, putain ! Il retombe sur la chaussée, met les pleins gaz dans la montée et tourne presque aussitôt à droite sur Schwanwegen. Les pneus glissent sur l'asphalte et la voiture explose un banc de neige gris, de vieux blocs de glace éclaboussent le capot et le pare-brise. Petrus repousse ses lunettes sur son nez, garde les yeux sur les indications à l'écran tout en communiquant avec l'opératrice. Ils comprennent qu'il s'agit très probablement de la tueuse en série appelée la veuve et qu'ils seront les premiers à arriver sur place. Nina ressent la chaleur du téléphone contre son oreille tandis qu'elle écoute l'opératrice lui expliquer qu'une voiture de police se trouvant à proximité est en route vers la maison.
« Est-ce qu'il faut que je sorte ?» demande-t-elle, ou bien non ?«
Restez en ligne », lui répond l'opératrice qui lui explique rapidement qu'elle va lui passer un policier. « Bonjour Nina. Une voiture de police se trouve à proximité de chez vous. Deux autres sont en route et j'ai demandé une équipe d'intervention en renfort. » dit un homme avec un accent finnois.
« Qu'est-ce que je fais ?»
demande Nina, entendant son propre souffle saccadé. Frank ouvre maintenant la porte d'un placard et choisit des sous-vêtements dans un tiroir. « J'ai compris que vous êtes à l'étage et que vous pouvez voir votre mari et une femme armée d'une hache au rez-de-chaussée, » explique-t-il.
« Je ne veux pas mourir !»
gémit Nina. « Pouvez-vous quitter la maison ?»
« Non, à moins de descendre à l'étage où elle se trouve. »«
La femme, vous a-t-elle vue ? C'est elle que vous êtes là ?»«
Je crois pas. »«
répond-elle en avalant péniblement sa salive. « D'accord, bien. Dans ce cas, je veux que vous vous cachiez. Cachez-vous bien et attendez-nous. Cachez-vous dans un placard, allongez-vous par terre et restez complètement silencieuse. »
Nina hoche la tête, mais reste près de la fenêtre derrière le rideau, à regarder en bas. La neige tournoie devant la paroi vitrée de la salle à manger. La femme blonde se déplace dans la pièce du bas, jette un œil derrière les meubles, vérifie les cachettes potentielles, puis s'approche de l'escalier menant à la cuisine.
« S'il vous plaît, venez vite !»
murmure Nina au commissaire.
« Vous êtes bien caché. »
Franck a maintenant enfilé son caleçon et est allé dans la chambre. Il enlève la pellicule plastique d'une chemise récemment lavée et jette le cintre au sol. La femme perçoit le léger cliquetis du cintre, se retourne brusquement et se dirige d'un pas rapide vers leur dressing. Elle jette un regard autour d'elle et Nina aperçoit fugacement un visage étrange, aux traits grossiers.
Yona avait rendez-vous à la clinique du sommeil pour discuter du séjour de Veronica Negler. Grint est en congé pour la journée, mais l'infirmière Rakia Dardour, qui travaille avec lui depuis 20 ans, devait l'accueillir et tenter de répondre à ses questions. Il était attablé au Takiya Sushi Bar, en train de bavarder avec les femmes qui préparaient son repas, lorsque l'alerte est arrivée. Il s'est précipité dans sa voiture, a mis les gyrophares et s'est connecté à l'appel de Nina Silverstedt pendant qu'il roulait sur la Surbrunnsgatan en direction du long tunnel menant à Lidingö.
Elle a entendu Frank. Je la vois. Elle se dirige vers lui,
murmure Nina au téléphone.
« Vous n'avez pas besoin de regarder ce qui se passe. Nous arrivons bientôt, » assure Yona. « Assurez-vous juste de bien vous cacher. »
Les lampes ambrées du tunnel défilent lorsqu'il appuie sur l'accélérateur pour atteindre 185 km/h. Il klaxonne longuement pour forcer les voitures à se déporter sur la droite. Nina change son téléphone de main et essuie sa paume sur sa cuisse. La femme blonde est entrée dans le dressing et se cache maintenant derrière la porte ouverte. La hache pend dans sa main. Franck est dans la chambre. Il boutonne sa chemise, la tête baissée. Nina lui fait un signe de la main. Mais il ne la voit pas. Franck retourne dans le dressing et prend une cravate gris foncé du porte-manteau. La femme se tient derrière la porte, à moins d'1 mètre de lui. Elle lève lentement sa hache. Franck retourne vers la chambre, se rend compte qu'il a oublié quelque chose, revient vers le dressing, prend ses boutons de manchette, pose sa main sur le bord de la porte, mais la laisse ouverte.
« La première voiture sera là dans moins de 5 minutes, » dit le policier dans son oreille.
De retour dans la chambre, Franck noue sa cravate, prend son téléphone sur la table de chevet et voit le message de Nina. Nina se dépêche de couper le son de son téléphone au moment où il appelle. Son cœur bat très fort. Elle explique rapidement au commissaire que son mari l'appelle et qu'elle doit le mettre en attente.
« Franck, » murmure-t-elle, « il y a une femme avec une hache dans le dressing. La police arrive, mais tu dois sortir de la maison maintenant. Va sur la terrasse et cours. »
« Qu'est-ce que tu racontes ?» Nina voit la femme blonde poser la hache sur son épaule. Elle reste dans l'ombre derrière la porte et écoute la conversation.
« Tu dois sortir maintenant! Cours !» crie Nina.
Hé, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? » demande-t-il.
« Franck, écoute-moi !»«
J'arrive tout de suite !» interrompt-il en raccrochant.
« Franck ?»
Il raccroche, repose son téléphone sur le meuble et se dirige vers le dressing. La femme lève à nouveau la hache et se prépare à frapper.
« J'ai crié !»
murmure Nina une fois qu'elle a repris la ligne.
« Elle vous a entendu ?» demande Yona.
« Je sais pas !»«
Vous devez vous cacher. On est presque là. »
Lorsque Franck tourne le dos au dressing, la femme sort de sa cachette. Elle s'avance derrière lui, tenant fermement la hache à 2 mains. Franck s'arrête dans l'embrasure de la porte. Nina n'ose pas lui crier de s'enfuir. Son cœur bat à tout rompre dans sa poitrine. La femme ajuste son cou, mais s'arrête quand Franck entre dans la chambre. Elle le suit comme une ombre. Il s'arrête de nouveau, sentant probablement sa présence, et commence à se retourner lorsque la hache fend l'air et frappe son bras.
Nina se couvre la bouche. Son cri est presque étouffé. Le coup est puissant. Frank est projeté sur le côté et heurte le mur, mais il parvient à retrouver son équilibre. Son bras est complètement détaché de son corps. Il glisse de la manche de sa chemise et tombe au sol. Tandis qu'il trébuche vers l'avant, son sang asperge ses pieds et le tapis blanc. La femme tourne la hache habilement dans ses mains, le suit d'un pas silencieux, s'arrête chaque fois qu'il s'arrête, puis frappe l'arrière de sa tête avec le fer de la hache.
« Mon Dieu !»
Frank tombe à genoux, lève les yeux et rencontre le regard de Nina à travers les fenêtres et les tourbillons de neige. Le coup suivant frappe sa gorge de face. Sa tête se détache presque entièrement de son corps et pend derrière lui comme un sac à dos. Des flots de sang se déversent sur son torse.
« Elle est en train de le tuer !»
gémit Nina.
« Elle est en train de le tuer !»«
Cachez-vous. Vous devez vous cacher. On est presque là. » La vue de Nina se trouble. Elle chancelle en s'éloignant de la fenêtre, vomit sur son menton et sa poitrine, s'appuie contre le plan de travail de la cuisine, puis sort dans le salon. Elle tente de trouver une cachette et laisse échapper un gémissement en entendant, depuis l'étage inférieur, les cris enragés et gutturaux de la femme.